Radio Tranxène, Strasbourg, sans acouphènes.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, c'est la lentille au micro de Radio Tranxène sur Radio Judaïca. Et j'espère, oui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'aimerais pousser un petit coup de gueule, car demain, nous serons le 8 mars. Et si cette date vous parle, ce n'est sans doute pas pour les bonnes raisons. Car le 8 mars n'est pas et n'a jamais été la journée de la femme. Stupeur et tremblement dans les postes de radio. Pourtant, vous pouvez vérifier. Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. C'est un petit peu plus long, mais bien plus riche de sens. C'est un petit peu plus long, mais vraiment essentiel comme distinction. L'origine de cette mobilisation est ancienne. Au tout début du XXe siècle, déjà, les suffragettes évoquent la possibilité, la nécessité même, de mettre en place une journée d'action dédiée aux droits des femmes. Rappelons qu'à cette époque, les femmes ne votent pas et sont payées bien moins que les hommes. Cette idée est reprise par la Conférence internationale des femmes socialistes en 1910. Mais l'origine de cette date en tant que telle est à rechercher en Russie. Le 8 mars 1917, ouvrières et ménagères défilent dans les rues de Pétrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, à l'occasion de leur journée internationale. Elles réclament du pain et le retour de leur mari parti au front. Elles réclament la paix et la République, à une époque où la Russie est tsariste. Les ouvriers des usines Poutilov, les plus grandes de la capitale, se mettent en grève et se joignent au cortège. C'est la première journée de la Révolution russe. Cette journée s'inscrit dans l'histoire, et le 8 mars comme journée internationale des femmes est pérennisée par les soviétiques. En Europe, il faut attendre le 11 novembre 1972 pour qu'une telle journée soit organisée en Belgique, en présence de Simone de Beauvoir. Elle rassemble 8000 femmes. Le 8 mars est reconnu comme journée internationale des droits des femmes par l'ONU en 1977. En France, elle est portée par le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. Le gouvernement de François Mitterrand lui donne un statut officiel en 1982 seulement. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec les dates parce qu'au fond, ce ne sont pas celles-ci qui comptent. Reprenons celles qui comptent vraiment. Première journée internationale des droits des femmes au tout début du XXe siècle. Le premier scrutin pour les Françaises, 1945, élection municipale. 1965, 20 ans plus tard, le régime du mariage change. Les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception. 1970, la loi relative à l'autorité parentale modifie le code civil. Cette autorité parentale devient conjointe, adieu la puissance paternelle. 1975, la loi Veil est adoptée et autorise enfin l'avortement. Et enfin 1990, il y a 21 ans, la Cour de cassation reconnaît pour la première fois l'existence du viol entre époux ou viol conjugal. 2010, la lutte contre les violences faites aux femmes est déclarée grande cause nationale. Et depuis, il y a eu d'autres dates. Je ne les aime pas spécialement ces dates, d'autant qu'on ne les retient jamais. Mais je vous les donne car elles témoignent des luttes menées depuis plus d'un siècle par les mouvements féministes. Plus d'un siècle que des femmes se battent pour leurs droits, pour nos droits, pour un salaire égal, à travail égal, pour pouvoir sortir librement dans la rue sans être harcelées, pour que les auteurs de violences sexistes et sexuelles soient punis. Aujourd'hui, certains crient au péril féministe quand on parle d'écriture inclusive ou de charge mentale. Il faudrait que les féministes poursuivent leur lutte, mais en silence, sans gêner personne. Comme si leurs luttes étaient des luttes de seconde zone, des luttes à la marge, des combats qui auraient perdu leur lettre de noblesse au cours de l'histoire. Comme si les revendications féministes avaient un jour été accueillies à bras ouverts par les pouvoirs en place, qu'ils soient politiques ou financiers. Les manifestations ont parfois été violemment réprimées, il faut le savoir. L'histoire du 8 mars rappelle que les combats des femmes pour l'égalité des droits est une course de fond, un combat de longue haleine. Et il est loin, très loin d'être terminé. Pour rappel, 90 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex en 2020. 141 en 2019. Selon une enquête de l'IFOP de 2019, 86% des Françaises reconnaissent avoir déjà été victimes d'atteintes ou d'agressions sexuelles dans la rue. Le 8 mars a sa raison d'être. Ce n'est pas la journée de la femme, cela ne devrait pas être un événement marketing destiné à distribuer roses et codes promo aux consommatrices pour leur faire acheter toujours plus. Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes, des droits pour lesquels des femmes se battent depuis plus d'un siècle.
Radio Tranxène. C'est...
Et cette semaine, sur Radio Tranxène, nous avons choisi de vous parler d'une association bien installée à Strasbourg, la CIMAD. Nous recevons aujourd'hui Élodie Martin, chargée de projet régional Grand Est, pour nous en parler. Bonjour Élodie.
Bonjour la lentille.
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la CIMAD, qu'est-ce que la CIMAD ?
Alors la CIMAD, donc, c'est une association militante de défense des droits des personnes étrangères, depuis maintenant 1939. Donc la CIMAD, c'est un acronyme, hein. Ça veut dire Comité Intermouvement Auprès des Évacués. Et donc, à l'époque, elle est née hein, en Alsace et en Lorraine, enfin, plutôt en Alsace, dans le coup. Et ça a été créé par les jeunesses protestantes à l'époque, destination du coup des évacués lorrains et alsaciens. Et c'est en 1940 notamment où la CIMAD est entrée dans les camps d'internement dans le sud-ouest de la France, dans les camps de Rivesaltes, de Gurs, du Récébédou et j'en passe, pour effectivement apporter une aide matérielle, une aide de soins, une aide aussi tout ce qui était autour de la nourriture. Et elle a plaidé pour aussi libérer les personnes internées de ces camps-là. Et c'est au moment où il y a eu effectivement, ils se sont rendus compte de ce qui se passait avec le gouvernement de Vichy et l'Allemagne, au niveau des grandes rafles massives qu'ils allaient prévoir, que la CIMAD, du coup, a décidé d'élargir son champ d'action et pour aider à sauver des personnes, où effectivement, ils ont ouvert des centres d'accueil des personnes et ils ont participé aussi à organiser des filières clandestines avec de la création de sans-papiers, enfin de faux-papiers, pour effectivement faire passer les personnes et cacher les personnes juives, notamment en Suisse, prioritairement des enfants, mais voilà. C'est de cette histoire qu'est née la CIMAD. Et ça fait maintenant plus de 80 ans hein, qu'on œuvre auprès des personnes les plus vulnérables.
Alors justement, c'est la question que j'allais poser. Quelles sont les actions que mène la CIMAD aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, c'est à partir des années 1970, parce que au fur et à mesure des années, en fait, la CIMAD s'est vraiment réadaptée en fonction des enjeux et des contextes politiques. Et à partir des années 70, elle s'est impliquée beaucoup plus en réaction hein, aux politiques migratoires de plus en plus dures. Et aujourd'hui, donc, la CIMAD a plusieurs actions. La première et une des plus grosses actions de la CIMAD, c'est d'accompagner les personnes migrantes et aussi de défendre leurs droits sur le territoire français et aussi à l'étranger. Donc les militants et les militantes accompagnent au quotidien les personnes étrangères, justement pour les accompagner dans leur démarche administrative, puisque c'est de plus en plus complexe juridiquement et administrativement. Et voilà, dans l'exercice de leurs droits face à des administrations de plus en plus kafkaïennes, il faut dire. Ça, c'est le gros champ d'action de la CIMAD. Mais effectivement, après, il y en a d'autres. On agit aussi auprès des personnes enfermées, puisqu'on est présent dans plus de 8 centres de rétention qui est des prisons pour étrangers, en gros. Et le seul motif pour lequel on est dans ces prisons-là, c'est parce qu'on n'a pas les papiers au bon moment. Et également, on est dans 75, on agit aussi dans 75 établissements pénitentiaires où on va être auprès des personnes détenues pour effectivement les accompagner dans la défense de leurs droits et aussi être là pour eux. Et on est aussi là pour témoigner de ce qui se passe, soit dans les centres, enfin les établissements pénitentiaires ou dans les centres de rétention où personne ne parle de ce qui se passe aussi à l'intérieur.
Ce qu'on appelle pudiquement centre de rétention administrative. Hein,
c'est ça, exactement.
Qui désigne des établissements dans lesquels les personnes qui sont sans droit, sans papier, sont internées de force.
Voilà, exactement. On peut dire comme ça. Ouais. Et puis on a une troisième grosse action aussi qui est de témoigner, hein, d'informer et de mobiliser à la fois auprès des responsables politiques et également le grand public, hein, pour aussi témoigner de la réalité, migratoire aujourd'hui.
Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Il y a des permanences, c'est des prises de rendez-vous ?
Alors effectivement, en tout cas, nous on accueille plus de 100 000 personnes sur la France entière par an, qu'elles soient effectivement, enfin, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions, leurs opinions politiques. Et ça va être des personnes soit en demande d'asile, soit réfugiées, soit effectivement déboutées de droit d'asile, sans papier, ou des personnes qui ont des situations, qui sont en situation régulière, mais qui souhaitent faire venir par exemple leur famille dans le cadre du regroupement familial, réunification familiale. Enfin, c'est tellement complexe que du coup, on va s'organiser effectivement à travers des permanences d'accueil des personnes dans plusieurs villes de France. Du coup, il y a plus de 115 groupes locaux et permanences en France entière.
Donc ça, c'est votre action en temps normal. Est-ce que votre action a changé avec la crise sanitaire? Est-ce que la crise sanitaire a engendré un changement dans le travail que vous faites et aussi un changement peut-être pour les personnes que vous accompagnez?
Alors effectivement, comme dans beaucoup d'associations et d'organisations en règle générale, effectivement, la crise sanitaire a eu d'énormes impacts. Après, on a dû se réadapter, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Et les bénévoles ne se sont pas pour autant démobilisés, au contraire. Chaque groupe local a su composer un peu avec les contraintes sanitaires qui lui étaient imposées. On continue l'accompagnement, mais c'est un petit peu différent, certes, que ce qu'on pouvait le faire. Parce que, par exemple, prenons l'exemple de Strasbourg. Il y a normalement, avant la crise, on accueillait tous les mardis matins en pré-accueil, donc des personnes, plus de 70 personnes, chaque mardi matin, sans rendez-vous. Ça, c'est malheureusement plus possible, puisque nos locaux sont exigus et la situation ne le permet pas. Mais voilà, maintenant, ils se sont réorganisés à travers... des permanences téléphoniques, à travers sur rendez-vous, etc. Ouais.
Est-ce que la situation change du coup pour les personnes que vous accompagnez? Est-ce qu'elles arrivent plus tard? Est-ce qu'elles rencontrent plus de difficultés pour toutes les démarches qu'elles ont à accomplir?
Alors, elles n'arrivent pas plus tard, ça n'a pas changé. Ça n'a pas eu de conséquences là-dessus, mais là où ça a eu beaucoup de conséquences, c'est de toute façon, comme toute personne précaire aujourd'hui et en situation de vulnérabilité, clairement, la crise sanitaire a eu des impacts énormes. Et même si les gouvernements successifs n'ont pas attendu la crise sanitaire clairement pour réduire de plus en plus le droit des personnes étrangères. Et au lieu d'une ouverture à ce qu'on aurait pu penser, une politique beaucoup plus ouverte, comme a pu le faire par exemple le Portugal pendant la crise, le premier confinement, de régulariser un certain nombre de sans-papiers sur son territoire, on constate un repli aussi et des politiques de plus en plus dures. Comme par exemple, on regarde là en actualité aujourd'hui, maintenant... l'éclaircie, elle ne va pas venir de l'Union européenne avec le pacte européen sur les migrations. Au contraire, aujourd'hui, c'est mieux contrôler, mieux éloigner les personnes, beaucoup plus via Frontex, en lui donnant vraiment énormément de pouvoir.
Frontex qui est donc la police aux frontières européennes, pour faire simple.
C'est ça. C'est une agence européenne, au départ, qui était là pour surveiller les frontières européennes. Mais aujourd'hui, via le pacte, la Commission souhaite... lui donner clairement énormément de pouvoir et un pouvoir de police européenne, clairement. Ça va devenir le bras armé de l'Europe, pour contrôler les frontières et aussi beaucoup plus éloigner les personnes. Et tout ça, on le sait que ce n'est pas forcément dans la dignité et dans l'humanité comme ils peuvent le faire aujourd'hui. Et c'est vrai que sur les conséquences que la crise a pu avoir sur les personnes, c'est... On voit que les préfectures, notamment, ont profité de la crise sanitaire pour dématérialiser à gogo toutes les démarches administratives. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste vraiment à des fermetures invisibles des voies de régularisation et l'invisibilisation aussi des files d'attente qu'on aurait pu voir devant les préfectures avant. Mais elles sont toujours là, en fait, sauf qu'elles sont derrière des écrans, parce qu'il n'y a pas de plage disponible, les personnes galèrent devant leurs ordinateurs. C'est même nous qui maîtrisons parfois très bien les ordis, en fait, on passe un temps inouï et rien n'est traduit, bien évidemment. Donc pour les personnes qui ne maîtriseraient pas un français juridique et particulièrement de haut niveau, c'est un combat de tous les jours. Et puis, c'est vrai que je passe toutes les exigences illégales, toute cette maltraitance administrative et institutionnelle. Encore l'autre jour, j'accompagnais une personne. Dans le dossier initial, on avait fait quand même un gros dossier et la préfecture avait quand même demandé plus de 87 pièces à fournir en plus des documents qu'on avait fournis dans le dossier initial. Donc, plus des non-remises de récépissés, tout ça. Ça ne date pas de la crise sanitaire, mais ça s'est amplifié et encore plus aujourd'hui.
Est-ce qu'elles ont accès d'ailleurs à l'informatique, les personnes que vous accompagnez?
Non, pas nécessairement. Il faut quand même... Alors, elles ont peut-être un smartphone, mais en fait, c'est hyper compliqué de déposer une demande de titre de séjour via un smartphone parce qu'il faut scanner les pièces, pouvoir les joindre.
Parce qu'elles ne sont pas dématérialisées en plus quand elles leur sont confiées les pièces.
Ah ben non, bien sûr que non. Donc encore faut-il savoir comment faire pour scanner ou prendre en photo, puis les insérer dans les dossiers. Il y a effectivement des points numériques. La ville, par exemple, a mis ça en place, mais avec des heures très, très serrées. C'est sur des petits créneaux. Il y a une vraie fracture numérique. Mais il y a des associations qui, effectivement... ont mis en place des permanences, etc. Mais c'est pas suffisant.
Est-ce que c'est quelque chose que vous faites à la CIMAD, des permanences informatiques ?
Ben non, malheureusement, si on... enfin déjà, les bénévoles ne sont pas formés en informatique, d'une part. Et puis non, on n'a pas envie non plus de rentrer dans ce jeu-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que la préfecture ouvre plusieurs voies. Effectivement, ça peut être très bien pour des personnes qui maîtrisent l'informatique, etc. Ça va plus vite. Hein. Mais il faut laisser plusieurs voies pour déposer une demande de titre de séjour, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. On voit là, rien que le tribunal administratif de Rouen a dernièrement condamné une préfecture de Seine-Maritime en annulant son arrêté qui prévoyait de dématérialiser toute demande de titre de séjour. Mais les personnes plus âgées ou qui sont isolées, elles font comment ? Ou qui ne maîtrisent pas le français aussi. C'est toujours aussi compliqué. Donc là, la justice a effectivement rétabli, a donné raison aux associations pour qu'ils ouvrent plusieurs voies, plusieurs accès aux services publics et pas que par le numérique.
Donc si je comprends bien, la crise sanitaire, elle a eu un impact finalement sur une sorte de durcissement des mesures de la politique migratoire en Europe et peut-être en France, mais aussi sur la possibilité d'accéder au système de régularisation et au service de la préfecture pour les personnes qui auraient besoin d'un titre de séjour ou de déposer une demande d'asile.
Oui, effectivement. Ouais. Tout ça, ça s'est complexifié vraiment. Mais ça ne date pas d'hier, mais en tout cas, ça l'a accéléré avec la crise. Ouais.
Et alors, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer cette situation ?
Alors, dans un contexte où, effectivement, la question de l'immigration est constamment instrumentalisée à des fins politiques, si on veut améliorer cette situation, il nous paraît en tout cas indispensable et urgent aussi de sortir d'une simple position critique, souvent qualifiée d'utopiste, c'est vrai, pour vraiment tendre et refondre cette politique migratoire profondément et vraiment dans une dynamique d'égalité des droits entre toutes et tous et indépendamment de son statut ou de sa nationalité. Et on le voit, et la CIMAD appelle depuis le mois d'octobre dernier via une grosse campagne de régularisation durable et élargie pour toutes et tous afin que les personnes puissent vivre dignement et qu'elles puissent également pouvoir travailler sur le territoire, parce qu'on le voit aujourd'hui, toutes les petites mains du Covid, sachez-le, il y avait énormément de sans-papiers qui
se sont d'ailleurs mobilisés, qui ont d'ailleurs marché jusqu'à Paris pour faire entendre leur voix, et ce qu'ils avaient fait pendant la crise sanitaire.
Ouais. Très très grosse mobilisation à Paris, il y avait des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que quand une personne n'a pas de papier, elle ne peut pas travailler légalement en France.
Non.
Mais il peut arriver qu'elle travaille non légalement dans des conditions difficiles.
Effectivement, et en plus, on le voit aujourd'hui, c'est il y a beaucoup de travailleurs sans papier, et dans des très très grosses boîtes de type IKEA, c'est hallucinant en fait. Mais
ça s'est accéléré, ça ? C'est vraiment une conséquence de la crise sanitaire également ?
Ben, ça s'est accéléré, oui, parce qu'effectivement, je pense que les patrons trouvent un petit peu moins de main-d'œuvre, pardon. Mais bon, les travailleurs sans papier, ça ne date pas d'hier. Ils ont toujours été là, ils ont toujours bossé dans l'ombre, en fait. Vraiment dans l'ombre, sans qu'on les rende visibles. Et c'était cette marche, en tout cas, des personnes sans papier, a permis aussi une visibilisation de toutes ces personnes qui, aujourd'hui, sont sur le territoire, qui sont là, qui travaillent, qui payent leurs impôts. Et qui ne sont pas régularisés parce qu'une régularisation par le travail, c'est un combat. Et vraiment, c'est, J'en vois très très peu qui aboutissent quand on fait les démarches en préfecture.
Alors au sujet justement de ce que peut être une vie quand on n'a pas de papier, je renvoie les auditeurs à l'excellent papier de Thibaut Véter paru récemment dans Rue 89 Strasbourg qui raconte la trajectoire d'une personne sans papier et qui a connu le travail illégal.
Effectivement, ouais, l'histoire d'Abdelkader.
Alors, je pose toujours une question aux associations qui viennent dans Radio Tranxène, c'est de quoi elles ont besoin, de quoi la CIMAD a besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est des bénévoles? Est-ce que c'est des fonds? Est-ce que c'est un débat sur les politiques migratoires en Europe et en France?
Ben oui, alors des bénévoles, effectivement, on en a beaucoup, on a souvent des demandes, c'est chouette parce que beaucoup de personnes se mobilisent. Et ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, c'est les élections présidentielles arrivent. C'est un débat qui n'est pas instrumentalisé. On veut une société plus solidaire, ouverte aussi. On veut des soutiens et de la mobilisation des citoyennes et des citoyens. Et je vous invite notamment à aller sur le site de la CIMAD, lacimad.org, où il y a notre pétition justement sur la campagne de régularisation. Donc n'hésitez pas à aller signer cette pétition pour demander au gouvernement la régularisation durable et large des personnes étrangères ici en France.
Merci beaucoup, Élodie. Merci. Martin, d'être venue nous parler des actions plaisir. De la CIMAD sur Radio Tranxène.
La Malle sur Radio Tranxène.
Vous avez faim ? Cette semaine, dans la Malle de Radio Tranxène, c'est Babouchka qui s'empare du micro pour offrir une déclaration d'amour à sa pâtisserie préférée, j'ai nommé le Paris-Brest.
Chères toutes, chers tous, bien le bonjour à notre chère patrie. Fin de février, douceur et soleil recouvré, paraît à lézarder. Si l'univers a réuni bouches et oreilles aujourd'hui, c'est parce qu'il faut qu'on cause pâtisserie. Cyril Lignac vous donne la nausée ou bien vous tueriez pour une douceur pralinée, laissez-moi mettre les barres sur les T. Le pas pressé ou nonchalant, traverser cette porte nous mènera toujours dans un univers des plus plaisants, un monde où la plus grande des difficultés n'est finalement que le choix. Ah, sonorité caractéristique de ce monde édulcoré. Elle annonce avec soin au peuple de ces lieux qu'un ou une visiteur a franchi la frontière, déterminé ou dubitatif, bavard ou renfrogné. Elle annonce aussi pour vous le grand chambardement des sens. Une fois entré, tout à chacun se fait bombarder la rétine par l'étalage des préparations sucrées. C'est un véritable feu d'artifice sur papille qui s'empare de votre buccalité. Explosion de saveurs, fantasmagorie des goûts. La salive monte et se glisse subrepticement sur fond de palais. Stimulé d'images et de sensations, ça se bouscule. Vous l'aurez compris, la destination aujourd'hui, c'est la boulangerie. Mais dans ce tumulte, vos yeux révulsés par cette abondance se penchent sur une merveille d'un brun pâle. Juché d'une neige éternelle en particule, il est là. Il arbore fièrement sa rondeur, son épaisseur suave. Tout en courbure, il nous jette sans vergogne ses formes voluptueuses à la figure. Oui, mes amis, je vous parle d'un fleuron français, le bien nommé Paris-Brest. Symbole d'une époque au cyclisme aventurier, les historiens de la bouche nous diront qu'il symbolise la route vélo d'une course entre Paris et Brest. Seule pâtisserie qui invite au voyage, elle est la cible d'attaques culinaires. Oui, il s'agit ici d'un élan réac de tablier, une parole libérée sur les altérations de cette recette. Car il faut le constater, chacun y va au doigt mouillé. Des noisettes concassées par-ci, le rajout d'une croquante par-là, une forme allongée, un goût café revisité. Ineptie ! Il devient même le bras armé de toutes les crispations régionalistes. Quelle ne fut pas ma stupeur à la découverte d'un Paris-Nantes ? Une telle barbarie est prompte à la nausée, vous en conviendrez. Non, et non, et encore non. Chers tous, il suffit. Recentrons-nous sur l'essentiel. Une pâte à choux en forme de donut, très légèrement rassis, une crème au beurre pralinée remplissant plus que de raison le chou, des amandes effilochées, un nuage de sucre de glace. Savant mélange de sobriété et d'opulence. Il ne s'agit pas de tomber dans le chauvinisme poussiéreux, mais seulement de se réconcilier avec ce bambin intérieur, un peu éteint, n'attendant qu'une chose, se réjouir à nouveau en recouvrant cet artefact pâtissier si bien ancré à son passé. Et vous, votre bambin, vous lui mettez des étoiles dans les yeux ? Allez, à bientôt, bambino.
Radio Tranxène, c'est...
Avec le retour des beaux jours, que diriez-vous de vous poser sous un arbre pour bouquiner ? Cette semaine, La Fée Bleue vous offre une belle sélection de bandes dessinées dans laquelle piocher quelques idées.
Un beau et ensoleillé bonjour à vous toutes et tous. Lorsque je prépare mes lignes, un soleil radieux est à ma fenêtre et nous sentons tous monter l'impatience de ce nouveau printemps qui s'offrira bientôt à nous. Ces allures estivales me donnent très envie de vous parler d'un genre que j'apprécie particulièrement. C'est la bande dessinée, ce genre que j'aimais déjà plus jeune avec les albums de Lou, des Profs, des Blondes ou encore de Mélusine et que je récupérais à la médiathèque la plus proche de chez moi. Bien que je lise toute l'année, il me semble que c'est le bon moment pour lire ce genre en particulier. C'est coloré, c'est vivant et ça nous emmène à l'extérieur. Parce qu'il fait bon, mais il peut encore faire frais quand même. J'ai évoqué mes lectures bandes dessinesques de jeunesse, parce que ce sont des bons souvenirs. Mais je voudrais surtout vous parler de ce que personnellement j'appelle mes BD d'adultes. Les BD que j'ai découvertes dans ma vie d'adulte, celles qui sont dans ma bibliothèque, dans mon appartement d'adulte. Même si elles me ramènent toujours un peu à l'enfant que j'étais et que je suis encore dans mon cœur. Il y a par exemple l'œuvre « Culottée » de Pénélope Bagieux, que vous pouvez retrouver en édition complète dans toute bonne librairie. C'est une bande dessinée un peu particulière, car elle ne dépeint pas une histoire à travers plusieurs albums, mais plutôt raconte dans le style BD de nombreux destins de femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. 30 vies de 30 femmes, simplifiées pour que chacun puisse saisir le caractère exceptionnel de ces guerrières merveilleuses dont l'histoire, avec un grand H, nous a trop peu parlé. J'ai adoré l'ensemble de l'œuvre et je pense que c'est à mettre entre toutes les mains. Grâce à France TV Slash, vous pouvez également retrouver la série de vidéos culottées avec les 30 épisodes sur leur site et quelques épisodes sur leur chaîne YouTube. Dans un caractère un peu plus léger et loufoque, je voudrais vous parler de mon personnage préféré de comics, Harley Quinn. Et non pas celle qu'on nous a mis sous les mirettes avec son short raccourci à la modélisation 3D, mais bien la fougueuse et incorrigible docteur, capable de tout, surtout pour sa meilleure amie Poison Ivy. En effet, en collaboration avec Urban Comics, DC a sorti une série de très belles bandes dessinées sur ce personnage fait de rouge et bleu qui retrace son émancipation à partir de sa rupture avec le Joker. Cette femme complètement marteau va adopter une hyène et protéger sa liberté nouvelle contre quiconque arrive avec une prime sur sa tête décolorée. La qualité des dessins est vraiment sublime et m'a permis de connaître encore mieux cette femme que l'on relègue encore trop comme stupide sous-fifre du diable vert. Ses œuvres sont en tout cas des positions fortes de femmes qui s'imposent autant dans leur histoire que sur le papier à dessin. Et j'appose mon tampon pour les encouragements de ce style de BD. Que ça continue encore et encore.
Radio Tranxène, c'est...
C'est déjà presque la fin de cette émission, presque, car il est l'heure de laisser le micro à notre grand maître de la scène locale strasbourgeoise, celui qui ne loupe jamais une occasion de ravir nos oreilles, j'ai nommé Papa Jeff. Et cette semaine, c'est le rap funk qui est à l'honneur avec Cimer.
Merci la lentille, bienvenue dans la partie musicale de Radio Tranxène. Alors oui, on parle de Cimer, ah, on les connaît bien, ce sont des potes, on les a déjà fait passer pendant la première saison de notre cher podcast.
Et on les aime beaucoup.
Ah là là, Cimer, bah, c'est toute une histoire du centre de Strasbourg, je vous invite à les découvrir. Alors attention, hein, ça rap, ça clash, ça jump, c'est un cocktail qui mélange un groupe de rock avec une symphonie de coupe-tête et la scène rap indé comme on peut bien la connaître en ce moment avec son lot de punchlines et une forte présence des MC. Leur vision d'un concert idéal. Alors, Victor Gins me disait que c'était quand même pas mal d'envisager juste un concert en ce moment, parce que c'est un groupe qui vit pour la scène, et en ce moment, ils en sont privés. Mais attention, une petite surprise en fin d'émission. On aime les concerts bien organisés, me disait Cimer, avec une orga carrée, un bon ingé son ou une bonne ingé son, un ingé lumière au taquet. Là seulement, le groupe peut mettre le bordel correctement. Aucune climatisation ne peut encaisser un choc tel un concert de Cimer. D'ailleurs, celle du local bar est mystérieusement tombée en panne depuis. Trop de sueur, trop de sels minéraux, trop de populace s'étaient rués à leurs concerts. Les concerts de Simmer sont toujours blindés de toute façon. C'est le privilège d'être un des groupes de Strasbourg qui marche. Alors, les noms des instrumentistes, hein, il faut les connaître, ils sont quatre. Jonas Gomard à la voix et à la batterie.
Et partout d'ailleurs.
Ah oui, 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 Jonas Gomard, hein, la masserie, accompagnement des baklavas à l'époque. On l'avait déjà écouté au premier numéro de la saison 2. Il y a aussi Baptiste Weiland qui fait le piano. Et Victor Gins qui est à la voix et à la guitare. Et on trouve aussi Lucas Marceau à la basse. Donc attention, ça tape. Ils aiment bien sûr le confort d'une petite salle pour les pogos, tout ça, hein, vous connaissez, avec un contact très direct au public, spontané. Là où les solos tombent tout de suite dans le creux des tympans, la foule qui reprend les refrains en un clin d'œil, réactif. Promis, un jour, Simmer écrira un éloge du concert en salle exiguë, car c'est un groupe pour qui la littérature et la maîtrise de la langue comptent. On se rappelle certainement qu'il y a 2 ans et demi, ils avaient joué pour les Bibliothèques Idéales, notre cher festival littéraire strasbourgeois. Pour ce qui est de leurs actualités, ils ont sorti un album live. Attention, c'est rare en 2021, un album live.
Et ça fait du bien.
Live au Grillen, c'est sorti il y a quelques semaines. C'était dans le cadre du tremplin Jazz Off de Colmar. C'était un moment génial. Vous avez l'intégralité qui est dispo sur Deezer, Spotify ou sur YouTube. Donc allez écouter. Ce numéro de Radio Tranxen vous propose leur titre Reste Sobre, qui est issu de cette captation live au Grillen. Le Simmer Ben nous a donné 3 mots qui caractérisent très bien ce morceau. Énergie, alcool et caravane. Alors je vous laisse découvrir cette captation live. Reste sort de Simmer. Oh.
Les étoiles, hey, hey. Samedi avec la lune pâle, éclairant notre caravane. Ouais, 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 ouais. Là, là, dans la moiteur de la nuit, notre amour doucement grandit. Un rythme de caravane. Oh, ouais, 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 ouais. Oh, toi, tu sortais juste pour un verre. Qu'est-ce qui t'arrivait? Et tu finis de calembert. Gomard applique dans les mains, Gomard applique, je le suis, tu le sais. Demain je finis à terre, demain je me rappellerai plus de la soirée. Ah, je me dégoûte, j'enchaîne les pinots sans gagner de kilos. La peau sur les os, je vomis de l'eau. L'oreille à cette voix qui me dit reste quand j'arrive la voix pétée sur la scène. Combien de fois j'ai vu la tasse. J'ai picolé comme un breton en paire de creux. ma tire. D'oublier mon route impossible de reprendre les commandes. Jusqu'à demain j'ai pété mon pote. Je suis loin d'être sobre. Je déboussole les boules, c'est pour s'amuser. C'est cru évanoui le temps de la nuit. Sors,
Voilà, cette fois-ci, c'est la fin, la vraie, de notre émission. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous, mettez le nez au soleil, souriez sans raison, sentez le parfum du printemps qui commence, riez, mangez, et n'oubliez pas d'écouter 5 sons de la scène locale chaque jour.
Radio Tranxène, Strasbourg, sans acouphènes.